Rencontre spirituelle aujourd'hui, il est question de Saint-Cyrille d'Alexandrie. Oh, c'est loin ça. Il est mort en l'an 444, mais c'est très intéressant, c'est un évêque qui se convertit. Mais oui, ça peut être très intéressant, puis en plus de ça, c'est un docteur de l'Église, c'est un personnage énorme, fascinant, patriarche d'Alexandrie. Et c'est un homme c'est un saint, disons, qui avait des défauts, alors ça peut être consolant pour la plupart d'entre nous. Moi, en tout cas, ça me console. Il est né en l'an 380, Cyrille d'Alexandrie. Il est mort en 464. Il n'a pas vécu bien vieux, comme vous voyez, 64 ans. Mais il ne faut pas le confondre avec d'autres Cyrille. Parce qu'au martyrologe, on peut compter, quand on lit ça, vous savez, le martyrologe, c'est un ensemble de volumes et de volumes et de volumes qui n'en finissent plus, avec des saints, pour chaque jour, il y en a je sais pas combien. On peut compter une quinzaine de saints appelés Cyrille. Cyrille, ça vient du mot « curios », qui veut dire « maître » ou « souverain ». Et il s'est pris pas mal pour un maître et un souverain au début, quand il a été élu patriarche d'Alexandrie. Parmi ces Cyrilles, le nouveau calendrier romain que nous avons depuis le Concile, calendrier romain général, là, retient trois saints Cyrilles, qui occupent donc trois places. Là. C'est énorme. Il y en a seulement 181 saints au calendrier conservés maintenant dans notre liturgie. Hein? Il n'y en a pas beaucoup. Alors, les autres sont quand même des saints, ils sont dans le martyrologe, mais ils sont pas fêtés ou on ne commémore pas leur fête. Alors, au 14 février, oui, le 14 février, il y a un saint Cyrille, pensez que c'était Saint-Valentin, hein? Eh bien, on fête ensemble deux frères qui sont des apôtres des Slaves, les patrons de l'Europe, avec Saint-Benoît, le fondateur des Bénédictins, je vais parler demain de sa sœur jumelle, Saint-Scolastique. Alors, donc, Saint-Cyrille et Saint-Méthode, qui sont morts l'un en 869 et l'autre en 885, c'est eux qui ont évangélisé surtout les Slaves. Viennent ensuite deux évêques, qui ont été proclamés docteurs de l'Église. Il y a Cyrille, Saint-Cyrille, évêque de Jérusalem, qu'on fête le 18 mars, et Saint-Cyrille, évêque d'Alexandrie, qu'on fête maintenant le 27 juin, mais autrefois, c'était aujourd'hui qu'on le fêtait. C'est pour ça que je l'ai mis aujourd'hui, parce que le 27 juin, je suis en vacances obligatoires. On me conseille de me reposer un peu. Je pense qu'on a raison. Et puis, le premier Saint-Cyrille de Jérusalem est mort en 386. C'était un catéchiste exemplaire. Il savait enseigner sa foi. Et le second, celui d'aujourd'hui, Saint-Cyrille d'Alexandrie, qui est mort en l'an 444, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un grand pourfendeur d'hérésie. Des gens qui le connaissaient à l'époque disaient que l'homme n'est pas commode du tout. Et d'un commun accord, il le dépeignent comme un homme, imaginez un saint, comme un homme violent, intransigeant, bref, d'allure quelque peu dictatoriale. Alors c'est tout un saint. Vous allez voir, il va changer. Sans vouloir être méchant de quelque façon que ce soit, je vous ai déjà fait une émission, me semble c'est un 13 décembre, l'anniversaire du décès du cardinal Léger que j'ai bien connu depuis quand il était simplement Monseigneur Léger, puis ensuite évêque de Montréal, et ensuite cardinal, et etc., etc. Je l'ai vu évoluer. Il avait un tempérament parfois bien difficile, au début, il faut bien le concéder, je l'ai dit en onde. Moi-même, il m'avait blessé terriblement. Et puis, il était très dur avec certains prêtres et tout. Je n'étais pas prêtre, j'étais séminariste à l'époque et j'ai quitté. Mais je l'ai bien connu par la suite et j'ai fait des émissions avec lui à la télévision en studio ici à Montréal pour Radio-Canada. Puis je suis allé faire un film sur lui quand il était au Cameroun et cet homme se convertissait constamment et sur les derniers jours de sa vie, je vous assure, c'était un homme de Dieu extraordinaire. Il m'a bouleversé, le cardinal Léger. Eh bien, c'est un peu la même chose aujourd'hui. Saint-Cyrille d'Alexandrie, c'est vraiment un grand personnage. Il a laissé une œuvre remarquable, qui comprend, croyez-le pas, 10 volumes in quarto, dans la fameuse patrologie grecque de Migne. Il faudra bien qu'un jour je vous parle de l'abbé Migne qui a fait un travail inimaginable pour publier les textes des pères de l'Église en des centaines de volumes importants. Et lui, bien Saint-Cyrie d'Alexandrie, il occupe du volume 68 à 77. Alors on va partir à la découverte de cet homme qui était passionné, qui a provoqué tant de passion. Et puis, on peut rappeler d'ailleurs deux jugements. Il y a son contemporain Théodore de Cyre qui dit, sans ménager ses paroles, au moment de la mort de Saint-Cyrie d'Alexandrie, malgré sa conversion, il dit « Son décès réjouit les vivants, mais il afflige les morts. » Il faut dire que Théodore de Cyre l'aimait pas tellement. Mais ça, c'est autre chose. D'autre part, il y a le cardinal Newman, dont je vous ai déjà parlé. Je vous ai consacré une émission, c'est le grand prêtre admirable anglican qui s'est converti au catholicisme et qui est devenu cardinal et qui est mort en 1890. Il précise, « Je sais que Siri est un saint. Toutefois, rien ne m'oblige à déclarer qu'il était saint en 412, soit environ 25 ans avant sa mort. » Il ajoute, le cardinal Newman, théologiquement, il est grand. Les catholiques de toutes les époques lui sont redevables. Oui, c'est vrai que nous lui sommes redevables. Vous allez voir, il y a des beaux textes. Alors, essayons de voir pourquoi et comment. Alors, le grand saint Athanase, dont je vous ai déjà parlé, qui a lutté pour la divinité du Christ, meurt en 373. Donc, environ 75 ans avant... Saint-Cyrie d'Alexandrie. Et pendant 12 ans, ses successeurs vont occuper le siège d'Alexandrie en continuant sa lutte pour ce qu'on appelle l'orthodoxie, la vérité, la vraie foi. Mais ses successeurs cherchent sans arrêt à dominer l'Orient chrétien. L'Orient chrétien, c'est, disons, Antioche, en Syrie, et surtout Constantinople, dans la Turquie d'aujourd'hui. Et en 385, donc, une dizaine d'années après la mort d'Athanase, la nomination de Théophile comme patriarche d'Alexandrie oppose ce nouvel archevêque d'Alexandrie en Égypte à Saint Jean Chrysostome. Saint Jean Chrysostome, ce grand orateur qui s'appelle Bouche d'or. Chrysostome, c'est ça que ça veut dire, Bouche d'or. Il est à Antioche, lui, en Syrie. Alors, après la nomination de Saint Jean Chrysostome comme évêque de Constantinople, donc patriarche de l'Orient chrétien en 398, il y a un conflit qui culmine avec les intrigues montées par Théophile, l'archevêque d'Alexandrie, contre Saint-Jean Chrysostome, patriarche de Constantinople. Alors persécuté, imaginez, Saint-Jean Chrysostome va être démis de sa charge lors d'un synode qu'on appelle le synode du chêne, comme un chêne, en 403, puis il va mourir en exil 4 ans après. Quelle triste fin pour Saint Jean Chrysostome. Mais au milieu de ces complots qui sont plutôt indignes, le jeune Cyrie, lui, va être l'homme de Théophile, son oncle paternel. Théophile est ambitieux, il cherche à pousser aux honneurs ceux de sa famille, puis il instruit donc son jeune protégé, il l'instruit. Et puis, il le forme comme un prêtre, et puis, il le prend pour secrétaire. Alors, le jeune Cyrie, ce jeune clerc qu'il va ordonner, partage ses antipathies. Alors, il déteste Saint-Jean Chrysostome, au point de fulminer contre lui, sans bien savoir pour quelle raison, semble-t-il. Il dit, à un moment donné, c'est insensé, le réintégrer sur les listes des évêques, puisqu'il était évêque et patriarche de Constantinople, serait replacer Judas dans le collège apostolique. Wow! Vous voyez les excès de Saint-Cyrie quand il est jeune? C'est un exalté, un type qui perd un peu la boule, je trouve. Pourtant, ce jeune prêtre, qui n'a pas de modération, qui est injuste, il va quand même accéder très rapidement à l'épiscopat, puis en 412, à la mort de son oncle, bien, le neveu lui succède. Il va occuper le siège pendant 32 ans, et c'est là qu'il va se convertir petit à petit. Comme quoi, il n'est jamais trop tard. Hein? Comment ce jeune homme, fier de lui, puis prétentieux, va-t-il devenir un saint, puis un saint canonisé? Ce sera à la suite d'une rude ascèse. Hein? Il va passer du pouvoir à la défense des positions catholiques, qu'il va faire de façon assez dure, puis il va arriver au silence, recueilli vers la fin de sa vie. Et heureusement qu'il a vieilli jusqu'à 65 ans, ça lui a permis de rencontrer Dieu comme il faut. L'entrée en fonction ne traîne donc pas dès le 8 octobre 412, là, 3 jours après le décès de son oncle Théophile. Saint-Cyrille le remplace comme patriarche d'Alexandrie. Après avoir évincé d'une main ferme son concurrent, l'archidiacre Timothée, il manifeste aussitôt sa poigne. Par la fermeture des églises novatiennes, qui sont rigoristes, elles viennent de Novatien, le premier antipape, en l'an 251. Il expulse les juifs manu militari. Ils souffraient certainement d'antisémitisme quand ils étaient jeunes archevêques. Par cette violence, il est en opposition avec le préfet. Le préfet, vous savez, il y a eu l'assassinat d'un préfet, là, en Corse, ces jours-ci, qui représentait le plus haut dignitaire de la Corse. On appelle ça encore un préfet en France, mais c'était la même chose dans ce temps-là sous l'Empire de Rome. Parce que il est en opposition avec le préfet parce qu'il le juge attentiste, effluent, trop condescendant, quoi. On signale encore 2 erreurs de taille à mettre sur le dos de Saint-Cyrille d'Alexandrie. Il était autoritaire, il était brutal. Je l'appelle saint tout de suite parce qu'il va devenir saint plus tard. Bon. Voici un exposé rapide. Il y a 500 moines, des coptes, de Nitrie, dans la région désertique de la Basse-Égypte, qui montent en Alexandrie. Ils sont tout acquis à Saint-Cyrille. Ce sont des moines frustres. Ils insultent grossièrement le préfet. Et l'un des moines, pour appuyer Cyrille, blesse même le magistrat, le préfet, en lui lançant une pierre qui l'atteint à la tête. Alors les gens qui entourent le préfet, qu'on appelle les prétoriens, sont outrés. Ils se rassemblent, ils s'emparent du coupable, de ce moine, ils le rouent de coups. Alors Cyrille est imprudent jusqu'à l'insolence. Le patriarche d'Alexandrie, il veut défendre son moine. Il projette d'honorer publiquement ce moine résistant, qui va d'ailleurs succomber par suite des tortures que les soldats vont lui infliger. Il veut l'honorer en tant que martyr pour le service de l'ordre. Alors, on veut faire changer d'idée à Cyrille, mais le pouvoir s'offusque, il n'y a rien à faire. Puis un autre événement grave, c'est le meurtre de la philosophe Hypatie, une femme, une philosophe. Voici les faits, en résumé, je vous donne pas tous les détails. C'est regrettable, c'était exploité ça par des écrivains, même le comte de Lille, etc. Cette intellectuelle, cette femme extraordinaire de haut niveau, c'était une amie du préfet. Puis on dit qu'elle empêcherait, par des tours de manigance, la réconciliation de l'évêque Saint-Cyrille d'Alexandrie, le patriarche, avec ce préfet. Alors un lecteur, c'est-à-dire un clerc qui a reçu le deuxième des ordres mineurs, un lecteur qui a le droit de lire à l'église, dans ce temps-là c'était comme ça, un lecteur nommé Pierre propose de régler son compte à cette gêneuse qui s'appelle Hypatie. Et puis, ses partisans, poussés par lui, se précipitent sur le char d'Hypatie, s'emparent d'elle, imaginez, la traînent dans une église pour la tuer, puis ils dépècent même son corps. Ces gens-là étaient barbares. Mon Dieu! Alors, outré pourtant, on en a fait autant au Rwanda récemment, puis je pense que nous en avons fait assez au XXe siècle pour ne pas trop nous épouvanter devant tout ça. Alors, outré de cette horreur, l'opinion publique réagit et y voit un coup monté par Saint-Cyrille, ou Cyrille, si vous voulez, tout simplement. Et malgré le manque de preuves, la suspicion demeure, mais on sait que Cyrille n'y est pour rien. Et beaucoup plus tard, comme je vous ai dit, dans ses poèmes antiques, en 1852, le comte de Lille va évoquer les protagonistes du drame qu'il intitule Hypatie, la victime, puis Cyrille devient un tyran clérical, ce qui est absolument fou, il n'est pas coupable. La métaphysicienne, elle, la philosophe, est sacrifiée par les moines barbus, puis elle leur dispense des conseils, elle leur dit « Efforcez-vous plutôt que nous jeter l'outrage, de chasser de vos cœurs la discorde sauvage. » C'est un beau conseil, puis elle ajoute « Et s'il est vrai qu'un Dieu vous guide, soyez doux, clément et fraternel, et valez mieux que nous. » C'est dû le comte de Lille. Ces troubles où Cyrille d'Alexandrie s'est opposé au préfet, après les troubles où une métaphysicienne, une philosophe très réputée, amie du préfet, est assassinée de façon abominable, la réputation de Cyrille est plutôt ternie. Mais heureusement, Cyrille d'Alexandrie est un homme habile, intelligent. Il gagne vite l'estime des églises d'Occident, des églises latines, comme la sympathie de son peuple. En 418, le pape Zosime lui donne communication personnelle de la condamnation des erreurs pélagiennes qui concernent la grâce et le libre arbitre. Je vous ai déjà parlé de ça, mais je ne peux pas y revenir, je n'ai pas le temps. Et l'année suivante, le pape, le Saint-Père, lui réclame une copie authentique des actes du Concile de Nicée tenu en 325. Par ailleurs, Saint-Cyrille soigne particulièrement les homélies qu'il fait à Pâques, qui sont adressées à tout son peuple, et qui admirent l'énergie puis la pensée de Cyrille. Dans le même temps, Saint-Cyrille rédige un ouvrage important, Trésor sur la Trinité. Il se livre à de nombreux commentaires de la Bible, un intellectuel. Et parmi ces commentaires, il y a une glose sur l'Évangile de Saint-Jean. En voici un bref passage. Le mystère du Christ est en quelque sorte le principe et le moyen par lequel se réalise notre participation au Saint-Esprit et notre union à Dieu. En effet, nous sommes tous sanctifiés par le mystère du Christ. Pour que nous parvenions à l'union au Seigneur et entre nous, et que nous soyons comme mêlés les uns aux autres malgré nos caractères spécifiques qui permettent à l'Esprit de différencier nos corps et nos âmes, le Fils unique a institué l'Eucharistie, en rapport avec sa propre sagesse et la volonté du Père, et de la sorte, puisqu'il bénit ceux qui croient en lui dans l'unité de son corps, par le mystère de cette communion, il en fait un seul corps avec lui et entre eux. Il ajoute, c'est très beau, « Qui donc pourrait diviser et déposséder de cette union physique où ils s'établissent les uns avec les autres, ceux qui par la vertu de ce seul corps ont été liés ensemble jusqu'à ne faire qu'un avec lui hein? ?» À la suite de la semaine de l'unité, c'est très beau, je la rappelle. Hein? « Qui donc pourrait diviser et déposséder de cette union physique où ils s'établissent les uns avec les autres, ceux qui par la vertu de ce seul corps ont été liés ensemble jusqu'à ne faire qu'un avec le Christ. Pourquoi se disputer? Pourquoi ne pas s'aimer? Pourquoi ne sommes-nous pas tous dans une seule et même Église? » Il ajoute en terminant, Saint-Cyrille, « Si nous participons tous à ce seul pain, nous ne formons plus qu'un seul corps. Impossible de diviser le Christ. » C'est pourquoi l'Église est appelée corps du Christ, et nous, ses membres, diversifiés. Bientôt, Saint-Cyrille d'Alexandrie ne va plus se limiter à des occupations purement intellectuelles et spirituelles. Il va défendre l'orthodoxie. Ça commence. Il va consacrer 4 années parfaitement recensées par les historiens à soutenir une vive polémique pour défendre la vraie foi, la foi de l'Église. C'est ce qu'on appelle la controverse nestorienne qui dure de 428 à 431. Je vous rappelle qu'il va mourir en 444. Toute la période de 428-431 se trouve dominée par la personnalité de Nestorius, un moine syrien devenu hérésiarque, c'est-à-dire qu'il enseigne une doctrine qui n'est pas conforme à celle de l'Église. Un hérésiarque notoire, dont il faut esquisser le portrait. C'est ce qu'on raconte. D'apparence, ce personnage a l'air d'un homme mortifié. Hein? Ça rappelle le misanthrope que l'on a vu ces jours-ci à la télévision. D'apparence, donc, le personnage semble mortifié, mène une vie retirée, malgré qu'il ait la parole facile. Il a une espèce de vernis théologique soigneusement entretenu. Mais en réalité, au tréfonds, c'est un orgueilleux dangereux. Persuadé que sa façon de penser dépasse et surpasse celle des pères de l'Église qui l'ont précédé. Les pères de l'Église, c'est les grands théologiens de l'Église. Élevé en l'an 428 au siège épiscopal d'Antioche, Nestorius va d'abord jouer au redresseur de tort. Il réfute vertement les théories des Ariens, qui nient la divinité du Christ et la Trinité. Les hérésies des Macédoniens, puis des Manichéens. Pourtant, il est déjà tiré vers Pélage, un hérésiarque breton. Le pélagianisme, j'en ai parlé tout à l'heure. la grâce. Et dès l'an 429, donc, Nestorius avance avec arrogance des positions toutes personnelles, qui sont pimentées de jargon théologique. Voici un aperçu. Un petit résumé. Je ne veux pas vous ennuyer avec ces choses-là, mais c'est très important parce que c'est tout en train de renaître, ça. Il y a des gens qui pensent de la même façon aujourd'hui. Alors, au lieu d'attribuer à l'unique personne du Verbe incarné les deux natures, divine et humaine, il affirme et enseigne que le Christ conjugue deux personnes. Le Logos divin, puis la personne humaine. C'est-à-dire le Verbe divin, puis la personne humaine. Entre les deux natures, d'après lui, il n'y a pas d'union, mais une simple liaison. Alors, la conséquence logique? Mais il est impossible de saluer Marie du titre de Mère de Dieu, la Théotokos, comme on dit en grec, car elle est seulement génitrice de l'homme. Elle n'a engendré que l'homme. C'est une anthropotokos, dit-il. Anthropos, ça veut dire homme. Anthropotokos, et non Théotokos, Théos, qui veut dire Dieu. Devant cette hérésie, vigoureusement dénoncée, la hiérarchie, les évêques. La hiérarchie paraît d'abord plus médusée que prête à agir. Avertis par de nombreux fidèles scandalisés à leur saint Cyril d'Alexandrie, le saint du jour aujourd'hui, là, que je fête avec vous, va se constituer avocat général pour exiger la condamnation de cet agitateur qu'est Nestorius. On peut juger de l'éloquence du plaidoyer par un texte aussi précis que précieux. Il faut le décrypter attentivement. On va en faire une lecture spirituelle tous les deux, et voici, puis ensuite on fera une pause. « Je trouve stupéfiant, dit saint Cyril d'Alexandrie, qu'il existe des chrétiens qui s'interrogent. La Sainte Vierge doit-elle être appelée Mère de Dieu? En effet, si notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, comment la Vierge, qui l'a portée et qui l'a mis au monde, ne serait-elle pas Mère de Dieu? » Et saint Cyril continue en disant, « C'est bien la foi que nous ont transmis les saints apôtres, même s'ils n'utilisaient pas ce titre. C'est l'enseignement que nous avons reçu des saints pères, en particulier d'Athanase, notre prédécesseur de glorieuse mémoire, qui était patriarche d'Alexandrie comme lui, au troisième livre qu'il a composé sur la Trinité sainte et consubstantielle. » Homoousios, même substance, essence et nature entre les trois personnes divines. Et saint Cyril ajoute, je dois citer textuellement, voici le passage, il cite Athanase donc, la Sainte Écriture, nous l'avons souvent souligné, est caractérisée par cet usage courant. Elle présente au sujet du Sauveur une double affirmation. D'une part, il est Dieu éternel, Fils, Verbe, splendeur de la sagesse du Père. De l'autre, pour notre salut, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. C'est dans sa lettre, ça, aux moines égyptiens dont je vous ai parlé tout à l'heure, ces moines coptes, en 429. Et à partir de cette conviction, saint Cyril multiplie ses interventions et poursuit sa démonstration. Il adresse une seconde lettre à Nestorius. Il y a le traité de la foi qui est dédié à Théodose aussi, le traité pour les épouses du Christ et les impératrices. Puis à la fin de cette même année 429, il poursuit la polémique. Il fait porter à Rome par son diacre un résumé de ses thèses. Et au début de l'an 430, dans une seconde lettre à Nestorius, Cyril réaffirme à nouveau ses positions qu'on appelle orthodoxes, fidèles à la vraie foi. Nous confessons, dit-il, un seul Christ et Seigneur, non pas en adorant un homme avec le Verbe, pour ne pas introduire l'idée de division en disant avec. En fait, nous adorons un seul et même Christ, car le corps du Verbe ne lui est pas étranger, et c'est avec ce corps qu'il siège désormais avec son Père. En août 430, 14 ans avant la mort du patriarche Alexandrie Saint-Cyril, donc, le pape Célestin, qui est récemment saisi de la dispute entre saint Cyril et Nestorius, convoque un concile à Rome, un concile romain, pour étudier le dossier. La conclusion de l'assemblée est ferme. On charge l'évêque d'Alexandrie, saint Cyril, d'intervenir officiellement, selon une ligne diplomatique précise. Saint-Cyrille est donc mandaté. Il va devoir obtenir la rétractation de son collègue d'Antioche, Nestorius, cet évêque. En cas de refus, il aura le pouvoir de déposer Nestorius, c'est-à-dire de lui enlever son épiscopat, son siège épiscopal. Alors, il est assuré par cette délégation de pouvoir, Saint-Cyrille. Il va agir énergiquement. Son ultimatum à l'évêque Nestorius est accompagné de 12 anathématismes. Devez-vous demander ce que c'est? Ce sont des réprobations ecclésiales, des réprobations que l'Église fait avec toute autorité et qu'on pourrait dire qu'ils sont fulminés à l'égard de quelqu'un. Il est anathème, il est donc en dehors de l'Église. Voici un exemple de ces définitions dogmatiques explicites. Je les prends dans ce grand bouquin publié chez Flammarion, Histoire chrétienne de la littérature. L'esprit des lettres de l'Antiquité à nos jours, c'est un immense volume de, oh là là là, de presque 1200 pages, qui est paru récemment, hein. C'est assez récent ce chiffre, Flammarion, 1996. Alors je trouve à la page 203 les anathèmes sur Nestorius. Bon, il y en a 12, ils en ont imprimé 6, ils les ont choisis avec beaucoup d'intelligence. Si quelqu'un ne reconnaît pas que l'Emmanuel est Dieu, l'Emmanuel c'est Dieu avec nous, c'est Jésus. Si quelqu'un ne reconnaît pas que l'Emmanuel est Dieu en toute vérité, et que par suite la Sainte Vierge est mère de Dieu, puisqu'elle a enfanté selon la chair le Verbe incarné de Dieu, le Père, qu'il soit anathème, ça commence, hein? Deuxièmement, si quelqu'un ne reconnaît pas que le Verbe de Dieu, le Père, est uni hypostatiquement à la chair et est un seul Christ avec sa propre chair, clairement Dieu et homme tout à la fois, qu'il soit anathème. Alors, je passe sur le numéro 3 et 4. Numéro 5. Si quelqu'un ose dire que le Christ est un homme qui porte Dieu au lieu de confesser qu'il est Dieu en vérité, qu'il est Fils un et par nature, même en tant que Verbe incarné ayant part comme nous au sang et à la chair, qu'il soit anathème. Numéro 6. Si quelqu'un ose dire que le Verbe de Dieu le Père est le Dieu ou le Seigneur du Christ, au lieu de reconnaître que le Christ lui-même est Dieu et homme tout ensemble, le Verbe s'étant fait chair selon les Écritures, qu'il soit anathème. Numéro 11. Ça achève, hein? Si quelqu'un ne reconnaît pas que la chair du Seigneur donne la vie et est la propre chair du Verbe de Dieu le Père, mais affirme que c'est la chair d'un autre, distinct de lui et uni à lui par la seule dignité, la chair d'un être que la divinité ne ferait qu'habiter, au lieu de reconnaître qu'elle donne la vie, comme nous l'avons dit, parce qu'elle est la propre chair du Verbe qui peut tout vivifier, qu'il soit anathème. Et enfin, la dernière est toute courte. Si quelqu'un ne reconnaît pas que le Verbe de Dieu a souffert dans sa chair, a été crucifié dans sa chair et est devenu le premier-né d'entre les morts, lui qui est la vie et qui donne la vie en tant que Dieu, qu'il soit anathème. C'est Saint-Cyrille d'Alexandrie. Cet extrait de l'Histoire chrétienne de la littérature, paru chez Flammarion, gros bouquin qui se vend 180 francs. Alors, vous pouvez calculer, ça fait à peu près un bon 60 $, j'imagine. Alors bientôt, la lutte s'envenime entre Nestorius et Saint-Cyrille. En effet, à cause de ces 12 anathématismes de Cyrille, l'accusé, là, l'évêque Nestorius, répond par 12 contre-anathématismes. Et les partisans se rassemblent autour des deux grands adversaires qui ne semblent pas, sous les mots, placer la même réalité. C'est là qu'est le problème. On comprend pas ce que l'autre dit parce qu'on ne comprend pas le sens des mots. Il est clair que Saint-Cyrille vient de conjurer son adversaire en termes pathétiques. Il dit, les fidèles, l'évêque de Rome lui-même, sont scandalisés de votre entêtement, Nestorius. Consentez, je vous en supplie, à donner à Marie le titre de mère de Dieu. Donc, quant au fond, la discussion porte essentiellement sur le mot hypostase, qui, quand on parle du Christ, ne semble pas encore clairement défini. C'est une question de mots. querelle de mots. Que c'est triste. Des deux côtés, donc, on s'invective. Mon Dieu, mon Dieu. Des autorités reconnues attaquent maintenant le langage imprécis puis trop approximatif de Saint-Cyril. Ce dernier multiplie les appels aux gens puissants. Alors il écrit au pape Célestin Ier, puis à l'empereur Théodore, sans oublier les impératrices, etc. Nestorius, lui, l'évêque d'Antioche, là, se gausse, se moque de ces appels. Il plaisante, il dit « Cyril paraît avoir peur que je le convertisse ». Il y en a d'autres qui disent, et c'est très malheureux au fond, « On a bien tort de traiter les Juifs de déicides, ce n'est pas un Dieu qu'ils ont mis à mort, c'est un homme. » Alors, au début de 431, la querelle achève, rien n'est conclu, tout au contraire, Nestorius demeure insoumis, et désormais les évêques, qu'on appelle les évêques orientaux, qui dépendent d'Antioche et de Constantinople, tout en, il n'y a pas de séparation encore dans l'Église, hein, l'Église est toute unie, hein. Tout en blâmant les excès de Nestorius, là, ils soutiennent du moins cet homme qu'ils aiment quand même. Est-ce qu'on va vers un schisme? Alors, pour éviter le schisme, la séparation, les deux parties réclament un concile général, on les écoute, puisque l'empereur Théodose II puis Valentinien II, là, les deux empereurs, convoquent pour la Pentecôte, le 7 juin 431, donc, la troisième assemblée écuménique de l'histoire, c'est le troisième concile écuménique. C'est le concile d'Éphèse. C'est comme ça que c'est apparu le fameux concile d'Éphèse. Au jour fixé, alors les deux factions, les deux groupes, comme une partie de hockey terrible, si on peut dire, les deux factions rivales sont en présence. D'un côté s'avance Nestorius, accompagné de 16 évêques, puis de nombreux laïcs sympathisants, puis de l'autre, il y a Saint-Cyril qui a recruté 50 évêques, lui, favorables à sa cause. Mais il y a une absence remarquée lors de la première réunion, c'est Jean d'Antioche et ses suffragants. Les évêques de sa province ecclésiastique s'excusent d'un retard qui se prolonge. C'est une manœuvre, on se demande. Les gens se déplaçaient lentement dans ce temps, il faut bien comprendre. Et pendant ce laps de temps, bien Nestorius, lui, il joue l'objecteur de conscience, il est invité à participer au débat, il se dérobe une première fois. Il fait une déclaration en disant simplement, je vais réfléchir. Puis de nouveau pressenti, là, Nestorius recule encore. Il dit, je paraîtrai en temps voulu lorsque tout le monde sera arrivé. Alors, chargé d'une troisième mission d'invitation aimable, les ambassadeurs du concile d'Éphèse se font rosser, imaginez, par des partisans de Nestorius. Ils se font des coups incroyables, hein? Comme quoi l'Église a bien changé, c'est beaucoup mieux aujourd'hui. J'espère que les cardinaux se battent pas comme ça, puis les évêques non plus, quand même, c'est épouvantable. Et de guerre lasse, après 15 jours d'attente, Saint-Cyril fait valoir les pouvoirs qu'il a reçus du pape Célestin, puis déclare l'assemblée ouverte. Elle est ouverte, donc, le 22 juin 431, finalement, 198 délégués épiscopaux signent à l'unanimité une déclaration très importante. C'est la déposition de Nestorius. Ils disent, par soumission aux saints canons, c'est-à-dire les règles de l'Église, là, par soumission aux saints canons, saint S-A-I-N-T-S, là, et suite aux missives de notre Saint-Père et collègue, pape Célestin Ier, évêque de Rome, nous avons dû, avec larmes, édicter la sentence que voici. Le Seigneur Jésus-Christ, que l'impie Nestorius a blasphémé, décide, par ce saint concile, que le dit coupable soit privé de la dignité épiscopale et retranché de la communion sacerdotale. Bon, ça veut dire qu'il n'a plus le droit même de dire la messe. Le soir de ce jour, les habitants d'Éphèse sont heureux, ils pavoisent, ils organisent une procession flambeau en l'honneur de Marie, Mère de Dieu. C'est le titre qui est défendu ce jour-là. Pourtant, la liesse populaire n'apaise pas les disputes théologiques qui vont susciter 2 années de schisme, 2 années de séparation. L'affaire commence le 26 juin 431, 4 jours après la mémorable séance d'ouverture officielle. À cette date, en effet, arrive, très en retard, mais furieux qu'on ne les ait pas entendus pour commencer à débattre, le fameux Jean d'Antioche et ses évêques auxiliaires. Alors, en représailles pour cette insulte, ces gens-là se réunissent à part. Ils font un contre-concile qui excommunie Saint-Cyril, même nom d'Éphèse, puis leurs partisans. Et là, le 10 juillet, donc à peine deux semaines plus tard, arrivent à leur tour les légats du pape, qui ont comme nom Arcadius, Profectus et Philippe. Alors, ces légats romains, qui représentent le pape Célestin Ier, ils endossent les décisions du 22 juin, la déposition de Nestorius que je viens de vous lire. Après 3 mois de débats houleux, Théodose II, l'empereur, ordonne, le 22 août, la dissolution de l'Assemblée. Ça va faire. Alors, quelles seront les suites? Une fois les évêques rentrés chez eux, qu'est-ce qui va arriver? Mais pour désamorcer les rancunes accumulées, Saint-Cyrille accomplit alors un geste de paix. Vous voyez, il commence à vieillir, pas à changer. Interpellé par une opposition qui monte, il déclare « Je renonce à exiger la reconnaissance écrite de mes 12 anathématismes. » Je vous en ai lu 6 tout à l'heure. Malgré tout, les deux églises rivales restent sur leur position. Finalement, l'union provisoire et fragile va se réaliser en 433. C'est une acceptation des deux côtés, du symbole d'unité, vraisemblablement rédigé par Théodore de Cyre. Désormais, Saint-Cyrille ne pense plus à ses idées de triomphalisme. Un peu comme le cardinal Léger qui avait des idées de triomphalisme, mais quand il est arrivé à Montréal avec ses grands ornements de cardinaux et qui disait « Montréal, ô ma ville, que tu t'es fait belle pour recevoir ton prince », il s'était débarrassé de tout ce triomphalisme. Il était devenu un homme si simple et si bon et si tendre que j'ai aimé le cardinal Léger. Beaucoup aimé à la fin de ses jours. Et alors Saint-Cyrille, ben, il suit les mêmes traces. Mais il suit les mêmes traces. C'est le cardinal Léger qui a suivi les traces de Saint-Cyrille. Et Saint-Cyrille s'en félicite dans une lettre enthousiaste. Il dit que les cieux se réjouissent, que la terre tressaille d'allégresse. Et désormais, ben, le patriarche Saint-Cyrille est accusé de lâcheté par ses amis, dont la ligne est beaucoup plus sévère. Mais il doit s'employer, lui qui est devenu bon, à obtenir d'eux qu'ils atténuent leurs critiques. Et il écrit alors des lettres. Il invite les gens, ses compagnons de lutte, là, à s'apaiser, à se calmer les nerfs, quoi. Et le schisme paraît vouloir disparaître, là. Et Saint-Cyrille en informe le pape Sixte III, le nouveau pape, à la fin de 433. Il va mourir 11 ans plus tard, hein, notre Saint-Cyrille. Et à partir de cette date, et pendant donc les 11 années qui lui restent à vivre, Saint-Cyrille n'apparaît plus que comme quoi? Un croisé de la paix, on peut dire. Il veut la paix, l'amour. Ses lettres témoignent d'une pensée sereine. C'est tout sous-tendu par une spiritualité qui envisage l'approche de la mort, puis l'éternité avec Dieu, la Trinité. On peut écouter 3 déclarations significatives de cet auteur extraordinaire, de ce grand lutteur ardent qui est devenu mystique et conciliateur. Je vous les lis, sont très brèves. C'est extrait de la 10e lettre, de la 18e lettre, puis de la 58e lettre. On en a beaucoup de ces lettres. « Mon vœu le plus ardent a été et demeure de travailler, de vivre et de mourir pour la foi qui est dans le Christ. » Dans la 18e lettre, il dit « Puis-je recommander la pratique des médecins expérimentés, ces pratiques ne traitent pas tout de suite les maladies corporelles par cautérisation et amputation. Ils appliquent une médecine douce afin d'attendre l'heure favorable pour l'intervention chirurgicale. » C'est une bonne comparaison, hein? Puis la lettre 58e, il dit « Quand un ami souffre, il faut du doigté pour lui venir en aide. » Et lui porter remède. Oui, il faut du doigté. Hein, il avait compris ça avec le temps. Alors, revenons aux antagonistes, le Saint-Cyrille et Nestorius. Ça s'achève. Ils terminent très différemment leur lutte. Saint-Cyrille, lui, ben, il en sort, on peut dire, auréolé et vainqueur. Hein. Puis Nestorius, lui, se reconnaît éliminé puis vaincu. Mais j'ai des choses assez spéciales à vous dire, très étranges. Saint-Cyrille d'Alexandrie va vivre, lui, comme je vous ai dit depuis le début de l'émission, apaisé puis honoré. Nestorius, lui, va être blessé puis discrédité. Nestorius va connaître l'exil pendant les 20 dernières années de son existence. Mais à la lumière de l'histoire, le problème se pose. Saint-Cyrille serait-il le champion du vrai, puis Nestorius serait-il l'incarnation de l'erreur? On peut se poser la question maintenant. Au XXe siècle, on a découvert des choses récentes. De toute façon, de toute évidence, L'ambitieux Cyril d'Alexandrie, je vous l'ai dit, au début de sa vie, était très ambitieux. Oh, il a amassé une fortune immense. Hein? Il était terrible jusqu'à un certain point au début de sa vie. Il est devenu un saint avec le temps, tout en étant patriarche d'Alexandrie. Mais cet ambitieux Cyril d'Alexandrie ne devient qu'à la force du poignet un évêque égyptien omnipotent. Pour y parvenir, il a brassé la pâte humaine avec une espèce d'habileté qu'on peut trouver un peu suspecte. Et sa montée spirituelle à cause de son oncle, là, vous savez, s'il avait succédé à son oncle, apparaît surtout à la fin d'une existence longtemps marquée par la fougue d'une espèce de lutteur. Il y avait une spiritualité au début, mais elle apparaît pas grandi avec sa vie. Il a, parfois dans sa lutte, eu un vocabulaire imprécis qui a pu tromper Nestorius. Mais, inflexible sur ses positions, il était implacable. C'était un lutteur, pendant un temps, qui n'a pas épargné beaucoup ceux contre lesquels il luttait. Pourtant, la postérité a diagnostiqué quelque chose de favorable à son égard. On dit qu'il est un glorieux prédicateur, et c'est vrai. Un grand et très courageux défenseur de la foi catholique, et c'est vrai. Mais en ce qui concerne Nestorius, son ennemi, là, les gens les plus savants aujourd'hui s'accordent pour expliquer de façon peu favorable l'échec. Ce sectaire obstiné serait d'accord immensément orgueilleux, mais est-ce que c'est pas plutôt un tempérament porté à des excès? Nestorius était plutôt, pense-t-on aujourd'hui, un homme qui passe du chaud au froid, une espèce de cyclothymique, comme il y en a. On pourrait reviser le procès. On pourrait peut-être réhabiliter la victime Nestorius aujourd'hui. Pourquoi, je vous ai dit, la découverte au début du 20e siècle, chez les Nestoriens persans en Iran, il y a des Nestoriens encore là-bas, des gens qui sont des partisans de Nestorius, on a découvert un livre, le livre d'Héraclide de Damas. C'est un plaidoyer présenté sous pseudonyme qui invite à rouvrir le dossier. Puis, dans ce projet de réhabilitation de Nestorius, il y a des critiques sérieux qui se rassemblent. Il y a un Français qui a déclaré « Il faut revoir plus ou moins complètement la sentence traditionnelle contre Nestorius ». Un Anglais qui dit « Nestorius ne fut pas nestorien, comme on le pense. On lui aurait prêté ce qu'il n'a jamais voulu soutenir. » Comme quoi les gens, quand ils s'engueulent, souvent ne s'écoutent pas les uns les autres. Et c'est l'amour qui restaurerait finalement la paix. Mais finalement, c'est peut-être la mariologie qui a opposé les antagonistes, Nestorius et Saint-Cyril d'Alexandrie, alors que Nestorius, parfois combattu par des moyens peu loyaux, s'obstine à nier la maternité divine. Cyril nous invite à redire avec lui, « Nous te saluons. Marie, Mère de Dieu, trésor vénéré de l'univers, lumière qui jamais ne s'éteint. » Je termine par un beau texte de Cyril, un hymne à la Mère de Dieu. Nous te saluons, Trinité sainte et mystique, qui nous a rassemblés en cette église de la Sainte Mère de Dieu. Nous te saluons. Et ils sont dans une église dédiée à Marie. Nous te saluons, Marie, Mère de Dieu, trésor vénéré de l'univers entier, lumière qui ne s'éteint plus, couronne des vierges, sceptre de la vérité pure. Temple indestructible, demeure de celui qui n'a pas de toi, Mère et Vierge. C'est vrai qu'elle est la demeure de celui qui n'a pas de toi, Dieu n'a pas de toi. Mais il a pris une demeure, il a pris un toit, la Vierge Marie. C'est très beau, hein? Demeure de celui qui n'a pas de toi. Il ajoute à un moment donné, grâce à toi, celui qui vient au nom du Seigneur est béni dans les évangiles. Nous te saluons. Tu as abrité dans ton sein virginal l'infini. Grâce à toi, la Trinité Sainte est adorée et glorifiée, la croix précieuse célébrée et adorée dans le monde entier. Grâce à toi, les cieux tressaillent. Les anges et les archanges sont dans l'allégresse. Les démons sont en déroute. Le diable tentateur est tombé du ciel que l'homme déchu voit s'ouvrir. Grâce à toi, l'univers entier, séduit par les idoles, est parvenu à connaître la vérité et le baptême sacré accordé aux croyants avec l'huile d'allégresse. Grâce à toi, sur toute la surface de la terre, sont élevées des églises et les nations païennes s'acheminent vers la conversion. Grâce à toi, le Fils unique de Dieu a fait luire sa clarté parmi ceux qui se tenaient dans les ténèbres à l'ombre de la mort. Et grâce à toi, les prophètes ont prophétisé, les apôtres annoncé le salut aux nations. Grâce à toi, les morts ressuscitent, les rois gouvernent à cause de la Trinité Sainte. Quel homme est à même de chanter dignement les louanges de Marie? Elle est, ô merveille, mère et vierge à la fois, ce miracle me remplit d'admiration. A-t-on jamais entendu que l'on est interdit de franchir le seuil de l'architecte qui a bâti son propre sanctuaire? Qui est lésé s'il élève sa servante à la dignité de mère? Ou si l'univers entier tressaille-t-il d'allégresse? Grand Dieu que ces gens écrivaient bien, hein? C'est écrit vers l'an 420, quelque chose comme ça. Incroyable, que c'est beau, beau, beau. Je vous ai parlé un peu des Coptes au début. J'aurais voulu vous parler des Coptes, des Uniates, des Églises Unies. Mais on va faire une émission spéciale un jour sur toutes ces belles églises qui sont unies à nous, qui forment la grande Église catholique.